Bon, bonjour, bonsoir. Et puis peut-être il faut dire bonjour aux gens qui regardent par la vidéo. Et on va commencer, comme c'est l'heure. Et d'abord, professeur Anne Chen est aujourd'hui absente, professeur qui m'a invité pour ce collège. Et puis, pour une raison familiale qu'elle avait déjà expliquée, la première fois, aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais je crois que je suis assez grand pour faire tout seul mon cours. Donc, je vais essayer de faire un cours légèrement différemment par rapport à la dernière fois, parce que la dernière fois, principalement, je lisais le texte écrit. Et alors, on m'a dit, comme... Vous savez, pour un étranger, c'est extrêmement difficile de lire un texte écrit, même si c'est bien écrit. Donc, je fais un peu aujourd'hui, avec un langage peut-être mal déformé, mal formé, je voudrais essayer de parler autant que possible directement comme ça. Et la dernière fois, donc, je récapitule un peu. J'ai essayé de situer notre problématique, c'est-à-dire la problématique de la culture du Japon de l'après-guerre. Et puis, l'enjeu est de comprendre cette culture de Japon qui a commencé à peu près avec la défaite de la guerre et jusqu'à, disons, à la dévastation de l'année dernière. Donc, on prend à peu près 66 ans de culture, ce développement, pour comprendre quelle était, en quelque sorte, disons comme ça, la vérité en tant que brutalité. La première fois, je me suis référé comme exergue à une citation de leçon de Collège de France, de Michel Foucault au Collège de France, il faut défendre la société, en disant que c'est justement quelque chose comme chercher la vérité en tant que brutalité, non pas en haut, mais en bas. C'est pour ça que j'ai introduit la problématique du corps chair, nikutai. Et j'écris aujourd'hui donc un peu comme ça. Nikutai, ce n'est pas shintai. Shintai, il y a une autre façon de dire aussi. Mais, plutôt ça, mais plutôt nikutai. Donc, le corps chair avec toujours ce concept, cette idée de chair. Et je suis en train d'essayer comprendre la culture du Japon, surtout dans une période qui s'étale à partir de l'année 1945 jusqu'à 1970, à partir de cette problématique du corps, à partir de cette, non pas de la raison qui vient d'en haut, mais du corps qui émerge à partir de la terre brûlée, de la dévastation. Voilà, c'est à peu près ma problématique. Et puis, j'ai convoqué trois auteurs, trois récits, et pour constituer, disons comme ça, l'acte 1 de mon opéra, intitulé, donc, comme vous avez le programme, donc, c'est ce destin obscur du corps. Hein. Donc, la dernière fois, ça a été le premier, acte 1, qui était constitué à peu près par trois scènes, par trois récits, et de Sakaguchi Ango et Ishikawa Jun et Nosaka Akiyuki. Et j'y ai ajouté à la fin le quatrième personne, Tamura Taijiro, mais principalement, je voudrais travailler toujours pour une scène, pour déterminer une scène, soit avec trois personnes, ou bien quatre pôles, c'est-à-dire trois pôles, trois substituts, mais un autre pôle absent, en quelque sorte, comme ça. Et donc, dans mon opéra de qui consiste à suivre en quelque sorte le développement de ce corps qui est né à partir de la dévastation, qui est en train de grandir en quelque sorte, et toujours en soulevant le problème de la communauté, parce qu'il s'agissait bien de reconstruire une communauté, toute une société. Hein, comment reconstruire toute une société, toute une communauté détruite complètement par la guerre, par le bombardement, etc. Alors, maintenant, aujourd'hui, je voudrais entrer donc, dans l'acte 2, où il s'agit de la parole. Jusque-là, dans la première scène, on a vu à peu près un corps chair comme une femme idiote qualifiée comme la truie, hein, donc qui ne parle pas, presque. Et puis après, on est passé à un corps de l'orphelin, des enfants qui meurent de faim. Hein, donc ce sont des enfants, des corps des enfants qui parlent à peine comme à la dinette, comme un jeu. Hein. Serre-toi, on se souvient de cette parole très tragique, une espèce de fantasme de jeu que Setsuko et Seita sont en train de jouer sans nourriture du tout. Donc, et après, on a vu le corps, peut-être un voyou, disons comme ça, ou bien un garçon, à peu près 14 ans par là, hein, qui attaque le Ishikawa jeune écrivain dans un marché noir de Tokyo. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas eu de communication verbale, donc sans parole. Alors, jusque-là, on a assisté donc, en quelque sorte, à une émergence d'un corps chair, nikutai, hein, à partir de la terre brûlée, et qui est en train de grandir, mais en même temps, encore sans parole. Et alors aujourd'hui, je voudrais, avec vous, donc, voir la séance de l'émergence de la parole. Aujourd'hui, le thème, c'est la parole, le langage. Comment un corps apprend un langage. Et vous savez, bien sûr, ce langage, ce n'est pas le langage, n'importe quel langage, mais c'est il y a un moment bien précis pour un langage. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire. Disons comme ça, et je me réfère maintenant à un passage de Maurice Blanchot, comme toujours, de l'écriture de désastre. Il y a un passage comme ça, intitulé, entre guillemets, « La scène primitive ». C'est un texte dans lequel un petit garçon, peut-être 4 ans, qui se situe à côté d'une fenêtre, qui regarde le monde. Et c'est ça. Vous voyez, c'est... Tout le monde a eu cette scène primitive, donc réellement ou pas, peu importe, à un moment donné, on commence à comprendre que on n'est plus dans la famille, en quelque sorte, dans l'environnement. On entre dans un rapport de face à face du monde. Tout d'un coup, il y a le monde qui est là, non pas autour de moi, non pas comme espace maternel, mais on est juste en face du monde. Et c'est à partir de là qu'on commence à comprendre ce que c'est vraiment le langage. Le langage pour décrire le monde, pour représenter le monde, pour faire naître le monde, etc. Non pas le langage dont on se sert quand on est enfant, entre la mère et l'enfant. On passe à une autre dimension du langage. C'est ça la poésie, finalement. Je crois qu'on peut, on peut avoir beaucoup de définitions de la poésie, mais en même temps, je crois qu'au moins, on peut dire que la poésie consiste à quelque chose comme parole naissante, toujours naissante, hein, qui naît en même temps avec le monde. Sinon, ce ne serait pas la poésie, hein, en quelque sorte. La poésie, ce n'est pas une représentation d'un monde qui existe. La poésie, c'est quoi ? La poésie, c'est par le langage, par le moyen du langage, tout d'un coup, on est dans ce rapport très bizarre, très vertical, le monde et moi, face à face. Et c'est à ce moment-là que le langage commence à émerger comme une poésie, comme un poème. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes poètes vraiment géniales. Après, on perd. Alors, donc le poète adulte, peut-être c'est quelqu'un qui reste toujours à ce moment privilégié du langage, à mon sens. Et vous voyez aussi que c'est une espèce de césure, c'est une discontinuité qui arrive avec le langage au moment où on attend à peu près 14 ans, 15 ans, 13 ans, peu importe. En tout cas, avant même l'adolescence, il y a quelque chose qui arrive comme ça. Et c'est à partir de là qu'on sort de cet espace familial pour se confirmer, pour s'affirmer comme quelqu'un dans le monde. Et je crois que je vais essayer de tracer, disons, le drame similaire à travers les travaux de trois poètes au Japon. Et d'abord, donc, je vais quand même un petit peu lire, parce qu'il y a beaucoup de citations. Presque au même moment où Ishikawa Jun rencontra le corps de Jésus, dans un de ses marchés noirs à Tokyo, un étudiant de l'Université de technologie de Tokyo écrivit dans un poème qu'il avait vu la figure du Christ en regardant le ciel à l'heure du crépuscule, rendu pur par la faim. Donc, je cite. J'ai pu m'imaginer clairement l'aspect aussi bien que l'esprit ou bien le cœur, kokoro, du Christ. Savoir aussi bien que sa tristesse, je les ai sentis dans mon cœur comme si je les tenais dans mes mains. C'était une tristesse sentant étrangement le melon. Cela, j'ose vous l'affirmer. Et que l'aspect du Christ était farouche, cela également, je voudrais vous le dire. La traduction est la mienne, donc très mauvaise peut-être, très mauvaise. Mais il n'y a pas de traduction française pour le moment, je crois. Donc, faute de mieux. Le destinataire de ce texte est une femme, est une fille ayant la foi chrétienne, certainement. À elle, le poète déclare que, dans cette vision qu'il avait, le Christ marcha deux ou trois pas en chancelant sur l'herbe, les bras grands ouverts comme un nageur, et qu'il avait l'air triste et languissant de quelqu'un désirant s'approcher à ce qu'il avait longtemps tenu et qui allait s'envoler. Il se peut que le poète ait été lui-même tout près de la foi. Néanmoins, il ne peut prendre parti. Il confirme, à travers cette écriture qui le fut voyageur sans ce lieu destiné à une errance éternelle, la nostalgie narcissique dans l'âme. Resté sur le rivage de l'Est, Toho, rivage non pas tranquille, mais tumultueux de l'exil, sur lequel souffle toujours tristement le vent de la désolation. Il dit, il cite une espèce de maxime, « Pas de corps de Bouddha sans mon cœur, pas mon cœur sans le corps de Bouddha. » Telle est, d'après lui, la maxime qui règne sur ce rivage. Dans ce poème intitulé « Le Dieu différent », je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais... I Ching, on ne dit pas comme ça, mais je crois que c'est une espèce de néologisme. Mais un différent dieu, divinité différente, je ne sais pas comment traduire. Et donc, ce poème, publié en 1946, le jeune Yoshimoto Takahaki manifeste sa détermination à rester à tout prix sur le rivage de l'Est, dont la maxime tirée de Shinran. Shinran, c'est un moine fondateur d'une école de Jodo Shinshu, l'école véritable de la terre pure, etc., à peu près en 13e siècle. Et donc, de ce fondateur, Shinran, c'est toujours quelqu'un qui guide la pensée de Yoshimoto après même. Il a écrit Le dernier Shinran, un livre absolument spectaculaire sur le dernier Shinran. Et donc, dans la maxime tirée de Shinran, dicte que l'enfer est mon éternelle demeure une fois pour toutes. Jingoku wa ichijo wa ga sumika deru. Il se déclara ainsi résolu à rester sur ce rivage de la vie terrestre, tristesse dans l'âme, tout à fait comme quelqu'un désirant s'accrocher à ce qu'il avait longtemps tenu et qui allait s'envoler. Alors, 5 ans après, donc en 1952, Yoshimoto, ce poète, penseur, publia à ses frais un petit texte en prose, Koyu Jito no Taiwa, dialogue avec mon propre temps. Je ne sais pas si c'est aussi bien traduit ou pas, mais tel quel, dialogue avec mon propre temps. Texte inouï et incommensurable d'une aventure authentiquement poétique qui cherche à travers une écriture sèche, dure et précise, à faire de la solitude abyssale de son existence un point de départ ou une borne plus ou moins solide à partir de laquelle il peut se tourner vers la réalité historique. Il écrivit ce texte d'une écriture hermétique, tandis qu'il travaillait en tant que chercheur chimiste dans une compagnie et qu'il s'engageait très activement dans le mouvement syndicaliste. Dans la journée, le travail et les activités syndicalistes, mais le soir, une écriture de la limite, à la limite. Ce fut indéniablement une tentative d'auto-analyse de son psyché en souffrance, presque comme une psychanalyse, qui essaye de trouver ou rétablir au sein même d'une cavité existentielle dépourvue de toute signification ou toute raison d'exister, une propreté de soi, koyu, même si elle ne pouvait se donner quand l'état de dispersion. Parce que koyuji, ce terme très, très, très étrange, j'ai traduit donc le temps propre, et il explique que ça provient d'un concept de la physique quantique Eigenwelt. Donc c'est Eigenwelt indiquant plutôt un état de dispersion en grille des valeurs discontinues. Donc ce n'est pas Eigentlichkeit, propreté identificatrice, mais plutôt, dès le début, il voit son identité, en quelque sorte, en dispersion, en l'état de dispersion. Donc, quand même, c'est assez étonnant qu'il saute sur ce concept venant de la physique quantique pour déterminer son identité, en quelque sorte. À la recherche de son identité perdue, il a affaire à cette par intuition, par cette espèce de de dispersion, donc identité dispersée. Alors, cette écriture très difficile commence comme ceci. Et je cite. Ça, c'est aussi très difficile. À l'ombre des constructions des villes, le vent tomba soudain comme une logique de la vie, la physiologie. Au même moment, notre sommeil chuta, suivant la même méthodologie, vers le vide. Après avoir maintes fois circulé, le vent ramassa des feuilles mortes et des ordures sur les routes. C'est là-dessus que nous dormions. Donc, d'abord, on peut constater qu'il y a un mouvement de chute, toujours, la déchéance. J'ai déjà évoqué ce mouvement de chute, justement, à propos de Sakaguchi Ango. Par exemple, il a écrit un essai, La chute, le traité de la déchéance, etc. Donc, la chute, c'était toujours le premier mouvement de cette époque, tout de suite après la défaite. Et, mais ce qui est central, c'est le vent. On peut dire toujours que Yoshimoto, c'est un poète du vent. Donc maintenant, on est en train d'entrer dans l'imaginaire du vent. La dernière fois, c'était l'imaginaire, en quelque sorte, du feu et de la terre. Et maintenant, c'est le vent. C'est le vent qui résume, en quelque sorte, comment dire, l'imagination de cette époque, tout de suite après la défaite. Alors, bon, bien sûr, il faut toute une prudence pour interpréter ce vent. Il faudrait peut-être l'univers imaginaire de Yoshimoto Takahashi pour analyser. Mais, pour le moment, pour aller très vite, je me permettrai de suggérer quand même une toute première approche. Donc, avant tout, il faudrait comprendre ce vent. Sur la terre brûlée, à la suite sur les villes, à nouveau subitement reconstruites, le vent souffle toujours en circulant, en ramassant les feuilles mortes, les débris et les déchets de toute construction humaine, de toute réalité humaine. En fait, je me permets de le dire, c'est le vent du néant, c'est-à-dire le temps, et la conscience comme son corrélatif, qui s'avance impitoyablement bien que toutes les raisons de vivre soient perdues pour jamais, ainsi que le sens de l'histoire. Donc, le sens de l'histoire, il n'y a plus de sens, tout le sens est perdu, mais quand même, il y a le vent qui circule, il y a le vent qui arrive. Donc, c'est la continuation, hein, en quelque sorte. C'est le temps qui arrive, malgré toute la dévastation, en quelque sorte, toute la perte du sens. Et c'est le nihilisme, certes, mais seulement il est conjugué étroitement avec un sentiment d'immense libération ou de dégagement, c'est-à-dire le ciel, le ciel bleu. Dégagement soudain de l'engagement aveuglé et aveuglant de l'existence dans l'histoire. Et on peut se rappeler que Yoshimoto avait été lui aussi un adolescent dévoué à l'idéologie de la guerre. Donc, le lien entre l'existence et l'histoire est rompu. Il est abandonné par l'histoire, en quelque sorte. Cependant, la conscience devenue plus limpide, parce que libérée et vide, reste éveillée comme une peine inconsolable, comme une blessure inguérissable. Donc, c'est de cet éveil qu'il aurait voulu tirer ici il ne sait quoi, qui pourtant pourrait trancher l'état de sommeil dans lequel était tombée non seulement son existence, mais aussi, plus amplement, leur existence au pluriel. Pour cela, il n'avait pas d'autre méthode que celle de dialoguer avec ce vent même, parce que c'est dans ce vent qui n'est rien d'autre que la continuité de la conscience que reste amarré tout ce qu'il pouvait sentir. Alors, le poète lance dans ce texte une question maladroite, dit-il. D'où vient le vent ? Kazuma doko kara kita ka ? Il y répond lui-même, donc c'est un dialogue, en disant « Le vent vient de la direction du passé. Kaze wa kako no hou kara kita. » Et il l'appelle « Ô vent, kaze yo, seul toi tu amarrais tout ce que nous avons senti. Fin de citation. Bien sûr, on ne peut ici suivre tout itinéraire sinueux et douloureux de cette écriture authentique, mais je voudrais faire remarquer juste ceci, qu'il y a un événement qui arrive à travers ce monologue dialogique, un seul événement qui arrive dans cette espèce de monologue, c'est la lanterne rouge qui revient involontairement de son passé ou de sa mémoire. C'est-à-dire la lanterne banale qu'on trouve dans un chantier de route pour attirer l'attention des passants. Il se rappela tout à coup toute une série d'images où apparaissait cette lanterne rouge dans différentes situations. Pourtant, à chaque fois, lui sembla-t-il, elle avait une forme identique, les travailleurs portaient les mêmes vêtements et qui plus est, avaient les mêmes visages. L'image est exactement pareille. Le poète le remarque, jusqu'au point où leur pioche n'arrive à creuser qu'un tout petit peu de l'asphalte. Ce qui arrive comme événement est donc une répétition. La lanterne rouge, c'est quelque chose de complètement d'insignifiant. Il n'y a pas une valeur, une connotation. C'est une lanterne rouge qu'on trouve un peu comme ça pour la sécurité des passants, etc. Donc sans valeur. Mais ça revient sans arrêt dans sa mémoire quand il commence à se mettre en dialogue avec ce temps. Donc, tout à fait un peu comme une psychanalyse. Donc, c'est l'image qui revient. Donc, c'est une découverte décisive. Il écrit, je cite, « Quelle mémoire ! En sachant que la mémoire fixée n'est rien d'autre que le symbole de la forme de la souffrance présente, j'ai cessé de désirer fuir le lieu où je vis maintenant. » Et après, il dit, donc la solitude n'est rien d'autre que mon existence elle-même basée sur la perte des premières sensations humaines, ningen, que sont la joie, la colère, la tristesse, le plaisir. Il faut donc accepter, donc pour lui, cette existence dénudée, isolée des premières sensations humaines, ningen. Ningen, il écrit en hiragana, hein, donc il distingue ningen en hiragana, ningen en caractère chinois, donc kanji. Donc, il y a toute une sophistication qui tourne autour du concept l'homme, l'être humain, etc. Mais j'en passe. Pour emprunter le concept sartrien, peut-être, cette inertie de la vie qu'est la solitude. Tel était, me semble-t-il, ce qu'il entendait par le mot seiri, la logique de la vie. Donc, j'ai traduit la logique de la vie, mais normalement, ça signifie la physiologie, etc. Mais je crois que c'est une logique de la vie qu'il veut entendre. Et il dit comme ça, « S'il en est ainsi, que devrais-je regretter » déclare-t-il. « Tout en gardant la logique de la vie, donc Seiri, je n'avais qu'à attendre que la sphère obscure du temps soit passée. » Au moins, dans sa conscience, il y a là une figure limite de la forme de l'être humain, Ningen, comparable, d'après lui, au sacrement. Il est clair que le poète procède ici avec une méthode purement logique ou presque chimique qui exclut tout le lyrisme. Ce fut donc une expérimentation de l'existence humaine par le biais de la parole poétique à la recherche de la constante de son existence-temps. Cette procédure ne manque pas, me semble-t-il, de le conduire à une double confirmation. Ça, c'est très important. Donc, il confirme, il arrive à une vérité, en quelque sorte brutale. Rien n'existe pour sa propre raison. Mais de surcroît, il faut que j'existe pour ma propre raison. Je crois qu'on peut vraiment sentir que cette phrase résonne à travers tout son travail de la vie. Donc, c'est-à-dire, rien n'existe pour sa propre raison. Mais de surcroît, shikamo, c'est un peu bizarre, il faut que j'existe pour ma propre raison. Et Quelle est donc sa propre raison d'exister? Et de son argumentation très complexe, poétique, je relève trois choses. Juste. D'abord, la haine qui reste éveillée. C'est la haine. Je cite, « Tout ce que j'aime s'était endormi tandis que la haine restait éveillée pour toujours. » Donc, c'est la haine qui est réveillée. L'éveil, c'est la haine. Il est éveillé en tant que haine. Haine contre quoi? Contre l'histoire, disons comme ça. Et puis, deuxièmement, je vais un peu vite, le désir de retourner quand même quelque part. Je cite, « Regardant tout seul le ciel tout gelé, je désirais toujours rentrer un jour quelque part. » Autrement dit, je considère comme un destin la triste sensation que la route sur laquelle je marche depuis longtemps va aboutir finalement quelque part. J'accepte cette existence, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a peut-être un peu comme l'influence de Shin Lam. Je rentre un jour à cette terre pure, en quelque sorte, comme ça. Donc, je vois que dans son imagination, Amitabha, le Bouddha, est lié à ce désir de retour, en quelque sorte. Troisièmement, du même coup, marquer une coupe, une césure vis-à-vis du temps passé. C'est-à-dire, il dit comme ça, « Ce que je désirais, comme toujours, était, me semble-t-il, de former une séparation dans la direction de l'axe du temps que je sentais du côté du passé, à savoir de produire une sphère noire obscure. » Donc, il dit, « Je voudrais couper, je voudrais me séparer du passé. » Donc, je voudrais marquer une césure dans cette continuité représentée par le vent, par le moyen du langage. Vous savez. Donc, ça correspond tout à fait à ce moment de blessure, de fissure dont j'ai parlé pour l'évolution du langage. Je crois que tout le monde passe à un moment donné cette espèce de fissure. Mais en même temps, cette idée de césure, cette coupure, ça nous renvoie forcément, par exemple, à Cesua chez Hölderlin, repris par Walter Benjamin, etc. Il y a toute une théorie, ou bien toute une réflexion, une pensée sur césure. Je crois que moi, j'ai beaucoup, disons un peu comme ça, travaillé là-dessus, et je veux, à ma grande surprise, cette césure que Yoshimoto essaie de marquer ici correspondrait très bien, peut-être, à cette césure qu'on trouve chez Hölderlin, par exemple. Donc, et maintenant, donc, presque au bout de cette écriture, il arrive à apostropher non plus le vent comme métaphore, mais le temps lui-même. Donc, il s'adresse au temps. Temps auquel j'ai désiré donner une forme humaine, ningen, pour satisfaire à cette condition, je devrais me faire marcher tout seul. Donc, avec cette résolution, se produit une césure, un arrêt du temps. Je cite, « Tout à coup s'arrête le sens. Toutes les choses flottent apparemment en s'humiliant comme les nuages rouges au ciel malade. J'ai appelé cela triste dépaysement. » Triste dépaysement, c'est sekilio dans le texte original. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais triste dépaysement, je traduis comme ça, en considérant que c'était comme une cassure de l'existence, séison. Combien d'années sont passées depuis le moment où j'ai commencé à savoir ce que veut dire le temps? En moi, il y a quelque chose qui s'arrête net. Vous que j'aime, c'est moi qui me trouvais au plus profond de triste dépaysement, sekilio, parmi tous les gens. Alors, arrêtez maintenant de qualifier la couronne de ma tête de toutes sortes de vocables. » Fin de citation. Donc, ainsi, il réussit à donner une forme à ce qui reste éveillé en assumant son existence rejetée sur le rivage du triste dépaysement et en créant une césure de l'arrêt du sens dans la continuité inerte du temps. La tâche de l'écriture s'achève. Le travail Le deuil de son âme étant terminé, son triste dépaysement se met à se mouvoir vers le lieu qui ne concerne plus son âme. Donc ce texte, Koyojito no Taiwa, dialogue avec mon propre temps, s'achève ainsi. Je cite. De toute évidence, mon triste dépaysement allait se mouvoir vers le lieu qui ne concerne plus l'âme. Je sentais sous la forme de ce triste dépaysement la raison pour laquelle je devais être furieusement en colère. Donc la fureur, ou le furor, un peu comme René Char, qui va désormais lui servir de balise, c'est-à-dire de lanterne rouge, il se lancera dans l'organisation de cette fureur. Il a posé donc par sa propre écriture une lanterne rouge ou bien un nuage rouge dans le ciel malade de l'après-guerre du Japon. En plus, dans la postface de ce texte, Yoshimoto a pu écrire avec fermeté ceci. Comme ce dialogue avec mon propre temps, Koyuchi Taiwa, s'est mu vers le dialogue avec la réalité historique, cette question doit être élucidée par les poèmes dits transposition qui suivent. Donc, tout de suite après, il passe à un autre poème, 10 poèmes pour la transposition. Donc là, maintenant, le point de départ est consolidé et il va transposer, il va se transposer, il va vers vous, vers la pensée, vers la révolte. C'est ça ce qui est extraordinaire chez Yoshimoto. Et ce poème, Tei no tame no juppen, 10 poèmes pour la transposition, c'est l'automne, toujours c'est l'automne. Je ne sais pas pourquoi, pour cette période, la saison est toujours l'automne. En plus, il y a un autre poème, Ayuka Onobuo, qui a écrit dans un très célèbre poème, « Toujours la saison était l'automne, hier, aujourd'hui. » C'est un homme mort de Ayuka Onobuo. Donc, pour les Japonais, pour les poètes japonais à cette époque, c'était toujours l'automne, hier ou aujourd'hui. Et en plus, je voudrais entendre aussi, à travers cette remarque, par exemple, la phrase de Arthur Rimbaud, « L'automne déjà, mais pourquoi aurait-il l'éternel soleil ?» Mais je mémorisais parfaitement quand j'étais jeune. Pour moi, c'était ça. Donc, c'était la saison rimbardienne en même temps, pour nous, pour notre imagination poétique du Japon. Donc, de part et d'autre, de ces 10 poèmes pour la transposition, c'est l'automne qui règne. Le premier poème est intitulé « Un récit de l'automne en feu » et l'aspect de deuxième, intitulé « Un schizophrène » et « La saison de l'angoisse devient l'automne ». Je cite un peu. « La saison de l'angoisse devient l'automne. Et l'autre toi que tu avais ne reviendra jamais. » Et l'autre toi que tu avais ne reviendra jamais. Donc, schizophrénie, donc, c'est la séparation de moi, c'est la, comment dire, la division de moi, en quelque sorte. « Éveille-toi le plus rapidement possible des illusions. Toi qui penses encore que tu as perdu l'amour de la femme, oh, ta sensation de perte est celle du monde. » Donc, ta sensation de perte est celle, sensation du monde. Donc, l'automne et le dépaysement, non pas personnel, mais mondial. Sa chute, aussi bien que son enfermement, sont mondiaux. Il a maintenant une clairvoyance de toute existence humaine. Donc, dans le troisième poème intitulé « Contrat muet », il constate « Derrière tous les paysages, il y a une physionomie bien laide des contrats muets de l'être humain. » Encore Ning. Il déclara alors qu'il allait creuser tous ces contrats muets pour éclaircir les conditions de l'être humain. On sait maintenant très clairement combien il aura été fidèle à cette promesse qu'il se fit jusqu'à la fin de sa vie, ou autrement dit, suivant le texte du poème, cette promesse qui se fit entre, je cite, « toi qui penses qu'il n'y a nulle part de raison d'une certitude quelconque, et moi qui crois qu'il n'y a nulle part de souffrance d'une valeur quelconque. Donc, et il arrive dans le quatrième, du désespoir à la fureur, à une déclaration fulgurante. Ayant perdu le corps, je me précipite un peu, et ayant perdu le corps cher Nikutai, nous vivons seulement avec la volonté, etc. Et je passe. Et dans le cinquième intitulé, pour cet automne-ci, il énonce très clairement cette volonté ferme ou cette résolution. Je vais vivre en tant que pensée refusée pour son sens. Donc c'est la résolution de vivre en tant que pensée. Et il est parfaitement conscient que cette pensée sera refusée et rejetée par ses proches ou ses compatriotes. Donc, je voudrais remarquer ici le commencement d'une pensée à laquelle Yoshimoto avait abouti par un douloureux travail de l'écriture poétique et du même coup insisté sur le fait que ce commencement de la pensée s'accompagnait de l'enterrement du corps et en d'autres termes, que la pensée dont il se verrait désormais à vivre le sens était doublée de ce corps enterré qui ne cesserait pas de revenir comme fantôme aussi bien que comme l'ombre de cette pensée. Donc, il a décidé de vivre en tant que cette pensée et qui a, en quelque sorte, enterré, enfoui le corps cher. Mais ce corps enterré revient toujours en tant que fantôme, en tant qu'une ombre, à cette parole. C'est ça, donc c'est une espèce de doublé, corps, parole, mais toujours par l'intermédiaire, par le moyen de cette détermination, décision de césure, de fissure. C'est ça ce qui est extraordinaire chez Yoshimoto, qu'il a vécu ça avec une conscience bien limpide. Il a lui-même marqué cette césure discontinue. Donc, la pensée de Yoshimoto a ceci de particulièrement radical, qu'il a désiré penser tout à partir de rien. Il n'a jamais appartenu à une organisation académique comme université, etc. Il a créé une petite revue Chico Essai pour le travail de la pensée avec deux autres littéraires, mais les autres se sont retirés tout de suite et il garde toujours cette petite revue, Chico, et c'est à travers ça qu'il a essayé de, en quelque sorte, d'établir, d'expliquer tous les contrats muets de notre société. C'est l'anthropologie, la psychanalyse, la linguistique, il a tout essayé. Mais sans discipline, sans esprit académique, toujours avec un esprit poétique, il a tout essayé, dans un sens. Donc, anthropologie, on peut trouver anthropologie, la psychanalyse, la linguistique, tout est là, mais toujours avec une façon complètement d'un amateur, en quelque sorte, d'un penseur. Donc, ce n'était pas une philosophie, c'était une pensée, Shiso. Moi, j'ai du mal à traduire ce mot shiso. On peut traduire shiso par la pensée, hein, c'est la pensée. Mais ce n'est pas la pensée. C'est quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu la. La pensée, mais en tant que la pensée, tout un système de compréhension du monde, en quelque sorte. C'est ça. Qui dicte aussi comment agir. C'est tout est là. Et ce n'est pas la philosophie. Je crois qu'il y a un problème, peut-être, dans la culture du Japon, dont je suis en train de parler, il y a un problème par rapport au mot philosophie. Ce n'est pas forcément peut-être une philosophie, c'est toujours la pensée. Gendai-shiso, la pensée moderne. Et cette pensée, Gendai-shiso du Japon, n'aurait pas été possible sans Yoshimoto Takahashi, à mon sens. Parce que si je, en tant que metteur en scène, si je dévoile la trilogie de cet opéra concernant la culture du Japon jusqu'à 2011, c'est le seul penseur qui l'a accompagné toute la période, à partir de l'année 1945 jusqu'à cette année, parce qu'il est mort cette année, en mars. C'est, en plus, c'est le père de Yoshimoto Banana, donc de l'écrivain. Donc, à mon sens, pour si je convoque quelqu'un du côté de penseur, pensée, il n'y a pas, je ne vois pas d'autre personne que Yoshimoto comme quelqu'un qui a accompagné toute la période de cette culture de notre après-guerre. Voilà. Et alors, je voudrais parler aussi de son essai sur Mathieu, hein, parce qu'il a écrit après, très bizarrement, un essai sur Mathieu. Donc, encore Jésus qui apparaît. Incroyable, ça. La culture de Japon de l'après-guerre est obsédée par l'image de Jésus. Et comme on a vu tout à l'heure, Yoshimoto, il a essayé de se séparer de la foi chrétienne. Donc, non pas Jésus, mais j'ai choisi délibérément de rester sur ces rivages de l'Est, avec Shinran, avec le Jodo Shinshu, avec la pensée du bouddhiste, en quelque sorte. Mais, n'empêche, il fallait qu'il travaille sur ce Mathieu, mais d'une façon très bizarre. Parce que dans cet article n'apparaît pas le mot Jésus tel qu'on l'entend en japonais. Parce que ça apparaît toujours Jésus, c'est-à-dire la prononciation française. Pourquoi ? Parce que il dit, parce qu'il se réfère à une Bible de la version second à la française, je crois. Mais je crois que en disant ça, il essaie de marquer qu'il ne s'agit pas de la religion. Il se sert de ce travail sur Mathieu pour confirmer la pensée de la révolte. J'ai envie de parler de tout ça, mais il ne reste que 10 minutes. Et puis, je voudrais parler encore de deux poètes encore. Donc, je ne sais pas comment faire, mais... Bon, quand même, je vais parler de... Je vais finir ce Yoshimoto. Je crois que quand même, c'est important. Donc, je vais lire. Je devais revenir ultérieurement à la fin de ma description de cet opéra, donc sur son livre de discours sur les fantasmes de la communauté, parce qu'il a toujours essayé d'éclaircir le problème de la communauté à partir du fondement, de la mythologie, de rituels, etc., etc. Mais peu importe. En 1945, Yoshimoto écrit un texte assez long intitulé « Un essai sur Mathieu ». Sous-titré « Une éthique de la révolte ». Encore une fois, donc, une référence à Jésus. Décidément, Jésus hante le paysage de l'après-guerre du Japon. Cependant, chose curieuse, l'auteur adopte une transcription française « Jésus » qui résonne très étrangement pour les Japonais, comme s'il voulait arracher le caractère religieux à la personnalité de Jésus. Dans cet essai, à qui a pour point de départ le livre d'Arthur Doléus concernant la construction mythologique de l'existence de Jésus, dont la traduction japonaise a été publiée en 1951. Il cherche en quelque sorte à tirer une méthode qui permette de faire de la haine entre proches parents une pensée de la communauté. Donc, de la haine, à partir de la haine, comment transformer cette haine en pensée? C'est ça, son grand problème. Il dit comme ça, je cite, « Ce n'est pas mon rôle ici de préciser comment Mathieu est le plus grand livre de plagiat de l'humanité qui ait jamais existé, ni non plus d'expliquer combien grand était le théâtre ainsi monté là, mais quant à son impression de la profonde obscurité, je ne peux m'empêcher de vous le dire. » profonde obscurité, jitsuni kurai insho, une impression vraiment très ténébreuse, sombre. Ce n'est pas l'ombre de celui qui existe et passe réellement sur cette terre, c'est l'ombre qui jette le sens d'une pensée quand il passe parfois sur nos sentiments. Donc, ce qui importe le plus à Yoshimoto est, me semble-t-il, la haine que le christianisme primitif avait, d'après lui, vis-à-vis du judaïsme. Si bien que Matthieu serait une tentative de transformer cette haine à une nouvelle pensée éthique par le biais de l'invention d'une figure totalement fictive qu'est Jésus à travers les opérations de rédaction ou de bricolage intentionnel des textes du vieux judaïsme. Dans cette optique, Jésus est le symbole de l'existence ambivalente, déchirée entre la réalité comme image projetée du sujet, Shukam, et la réalité que le sujet existe, Shutai. Là s'oppose rudement la conscience de l'existant et la réalité existentielle. Je cite, par exemple, la description que ceux qui sont méprisés, abandonnés et rejetés et qui en souffrent portent dans leur cœur comme un sacrifice les péchés du peuple, ou bien la description de la pensée masochiste que ses yeux furent satisfaits de la fatigue de l'âme montre clairement la conscience d'assumer positivement la crise existentielle comme la condition fondamentale de l'existence. Fin de citation. Il faut pouvoir partir de la déchirure. Il faut pouvoir établir une éthique, c'est-à-dire les principes des actes permettant de donner du sens ou de la raison à l'existence dépourvue de sens. Et le christianisme primitif lui semblait indiquer pour cela une méthode ou une voie possible. C'est la révolte. Révolte à partir de la haine, puisque, d'après Yoshimoto, le christianisme primitif saisit l'éthique comme fondamentalement opposée à l'ordre social. Face à l'ordre de la réalité impossible à changer, le christianisme primitif prétend qu'il ne leur est pas moins exclu d'établir un ordre à leurs sentiments bien qu'ils soient aliénés, méprisés dans la réalité. C'est une transformation de la haine en une pensée de révolte. Matthieu devient ainsi pour lui le livre de la révolte contre l'ordre social qui, par essence, opprime en implantant la haine entre proches parents dans le peuple. Pourtant, il n'aurait pas été Yoshimoto s'il ne s'était pas aperçu que le christianisme primitif qui avait inventé ainsi Jésus comme figure de la révolte tomba forcément lui aussi dans le même piège du judaïsme, c'est-à-dire de l'absolutisation de la pensée. Je cite. Lorsque le christianisme primitif attaque la manière de penser du judaïsme en s'appuyant, disons, sur l'absoluité, caractère absolu, plutôt, de l'idée, il est forcément exposé, lui aussi, à une double conscience de l'hypocrisie, due à l'idéalité de l'attaque lui-même et à la relativité de sa réalité. Cette double conscience, l'hypocrisie, provient de leur sens aiguisé et précipité de l'éthique. Fin de citation. D'un côté, il y a l'idéalité de la pensée qui se veut toujours absolue. D'un autre côté, il y a la réalité qui existe toujours comme relative. Ainsi, toute tentative de révolte risque-t-elle tendanciellement de se laisser récupérer dans l'institutionnalisation pour construire le régime comme c'était le cas pour le christianisme. Et c'est là que Yoshimoto introduit un cas original de renversement de valeur ou de sens. Comme une conclusion, il arrive à avancer ceci, que c'est la relation qui est absolue, tandis que l'idée reste finalement relative. Avec la pensée, on ne peut échapper à la réalité historique à laquelle on participe au-delà de sa volonté. Je cite, « La volonté humaine a certes la liberté de choix. Dans le choix, on peut sentir la conscience de liberté ressurgir. Pourtant, la volonté libre de l'être humain, dans le libre choix, n'est que relative face à l'absolu que force leur relation dans la réalité. » Fin de citation. Il ne s'agit pas pour lui d'écrire sur l'éthique. Ce n'est pas l'élucidation philosophique de l'éthique. Plutôt, il fait lui-même un coup éthique, un coup de révolte contre la pensée en renversant le schéma. La relativité réelle est absolue. L'absoluité de l'idée est relative. Ce qu'il y a l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Dans le sens, la pensée, quelle qu'elle soit, n'arrive jamais à saisir la réalité dans sa totalité. Et aucun sujet n'arrive à dépasser les relations constituant sa réalité. Le réel est impossible. L'absolu de symbolique, aussi bien que l'imaginaire, sont illusoires. S'il en est ainsi, et si quelque chose comme l'éthique est quand même nécessaire, elle n'est possible que quand on a une conscience claire et éveillée de cet absolu des relations réelles pleines de contradictions. C'est justement la révolte. Il dit presque en criant ceci. Il n'y a rien d'autre que l'absolu des relations qui détermine une situation humaine. Nous essayons de creuser le fond de notre propre pensée seulement quand nous voulons trancher ces contradictions. C'est à ce moment-là qu'advient notre solitude. Cette solitude s'interroge. Qu'est-ce qu'une révolution si on n'arrive même pas à rompre les contradictions propres à l'existentialisme ? Fin de citation. Ainsi, la solitude se relie en tant qu'éthique à une pensée de la révolte. Avec une résolution ferme, il se décide désormais à rester absolument dans cette relativité sans sortie, dans cet entre, qu'est la relation entre l'idée et l'existence, ou bien entre la parole et le corps, intérêt, dans cette obscurité de l'ombre du corps. Ainsi, sa position établie, la méthode acquise, il se lance désormais dans différentes activités critiques. En tant que révolté solitaire, il commencera par développer une critique sévère contre le poète qu'il avait aimé autrefois, Takamura Kotaro, qui s'était converti au patriotisme durant la guerre, en mettant surtout en cause la responsabilité de la guerre. Le problème de conversion était sa préoccupation première. À partir de là, Yoshimoto va s'établir comme intellectuel toujours radicalement révolté. En effet, donc, il a réussi à transformer sa propre haine entre proches parents, en pensée critique radicalement révoltée. Alors, ici, ce qui est très étrange, la dernière fois, j'ai convoqué donc, le passage de Michel Foucault, et après, donc, c'était son cours de 21 janvier 1976, et une semaine après, dans le même cours, il dit, Michel Foucault dit ceci. Donc, à cette histoire, l'histoire de type romain, une autre a commencé à s'opposer. C'est la pensée de Bible, en quelque sorte. Donc, Michel Foucault, il oppose, en quelque sorte, la pensée de l'histoire de type romain et la pensée de Bible, de judaïsme, de christianisme, contre cette histoire romaine. À cette histoire, une autre a commencé à s'opposer, une contre-histoire qui est celle de la servitude sombre, de la déchéance, celle de la prophétie et de la promesse, celle aussi du savoir secret à retrouver et à déchiffrer, celle enfin de la déclaration jumelle et simultanée des droits et de la guerre. En citation. Donc, j'ai l'impression que je suis en train de mener un peu un travail en parallèle à ce que Michel Foucault avançait donc en 1976 en opposant le pouvoir contrat et le pouvoir guerre et l'histoire de type de continuité et l'histoire de contre-histoire, donc c'est-à-dire l'histoire de la révolte, l'histoire de la discontinuité. Et je voudrais placer en quelque sorte cette problématique de la corps, du corps, de la chair de Japon dans le même sillage un peu que ce pouvoir guerre conservé en quelque sorte dans une poésie dans un corps. Donc c'est un peu dans cette optique que je travaille. Donc c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi tout le monde sautait sur la mythologie de Jésus. Pourquoi les poètes japonais avaient besoin de figures comme Jésus pour vivre son corps, pour pour vivre leur corps. Je vois que très intuitivement, pour ce prêtre-là, l'histoire de Jésus, la figure de Jésus, était quelque, comment dire, référence majeure pour leur imagination. Et c'est vraiment très dommage que je n'ai pas de temps pour parler de Tamura Ryuichi, après l'autre poète, et puis, et, entre autres, Yoshioka Minoru. Et je voudrais former, en fait, une espèce de triangle Yoshimoto Yoshioka et Tamura. Mais peut-être la prochaine fois, je continuerai sur cette piste quand même pour ne pas lâcher la poésie. Et peut-être je vais continuer, peut-être parce que j'avais déjà préparé pour un autre corps qui est The 17 de Oe Kenzaburo. J'ai envie de parler aussi de ce corps terroriste. Donc, je vais voir comment ça organise, mais en tout cas, il faudra que je m'arrête aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup. Et puis, je suis un peu. C'est un peu dommage, mais bon, peut-être je vais reprendre la partie où je me suis arrêté. Donc, merci beaucoup. Et puis, juste en marge de ce cours, la prochaine fois, ce n'est pas ici que je donne le cours, ce sera le dernier cours, mais il paraît que c'est la salle 5, juste en face. Donc. Et puis, d'autre part, je suis invité pour parler avec les gens, avec les poètes français et pour le 2 décembre, 1er décembre, 1er décembre, samedi, au Centre parisien d'études critiques, 37 bis, rue de Sentier, à partir de 16h à 18h. Donc, c'est l'entretien avec les poètes de la poésie, la revue Poésie. Et je voudrais peut-être parler aussi de ce que je n'ai pas pu dire aujourd'hui dans cet entretien avec le poète français. Donc, si vous avez le temps, venez. Voilà, merci beaucoup.